L'araignée blanche par Jean Sartène. Cette histoire me fut contée par le vieux détective Paddy McHiggins un soir de mai 1925 dans la salle privée de la taverne The Golden Plough, la charrue d'or, dans Titsway Square à Londres. J'admirais le vieux bonhomme qui, à près de 80 ans, était encore très alerte, sec comme un sarment, et appelé, certes, à vivre 100 ans. Je le regardais fumer sa courte pipe et lamper son stout en clignant de son œil malin. « Master Jean, il prononçait Jean. »« Oui, il en manque un bon bout, presque la moitié, et c'est une femme qui me l'a arraché d'un coup de dent. »« Une cannibale ? » fis-je en riant. « Pas du tout. Une jolie fille blonde comme du pale ale, et paraissant aussi douce qu'un agneau de lait. Elle n'eut que mon bout d'oreille, mais elle voulait aussi m'arracher le cœur tout vivant de la poitrine. »« Maigre, elle était gourmande. »«
Terriblement, »
fit Paddy McHiggins, achevant son pot de bière noire.
« Et méchante. » « Abominablement méchante, vous pouvez le dire. »«
Il y a une histoire là-dessous, n'est-ce pas, Paddy ?»«
Bien sûr qu'il y a une histoire. Et vous allez me la conter ?»«
Je vais vous la conter. »«
Oui, bien qu'elle remue en moi des souvenirs qui me donnent la chair de poule. »«
Mais, » continua-t-il en riant, « cela pourra vous faire un papier intéressant pour votre journal, je crois. »«
Allez-y, Paddy. Vous êtes un good fellow. »
Et pour l'encourager, je commandai un nouveau pot de stout.
« Voici. »
Cela s'est passé en 1900. Il y aura exactement 25 ans, le 16 juin prochain. C'est une date que je n'oublierai jamais. J'étais à l'agonie.
À l'agonie,
bien sûr, puisque je devais mourir le lendemain à 11 h, juste.
Mais ne m'interrompez pas, sinon je perdrai le fil de mon histoire et tout sera fichu.
J'étais encore à Scotland Yard. Je venais de tirer au clair l'affaire des Chinois de Limehouse. Vous savez bien, je vous ai conté cela.
Oui, je sais, mais ne déraillez pas, old man. Il s'agit de la cannibale.
C'est juste. Je commandai alors une section de la brigade des recherches criminelles, et je pistais avec mes hommes, 4 crapules capables de tous les crimes, mais si habiles qu'on ne pouvait jamais les prendre en défaut. Enfin, un soir, Bob the Squirrel, l'écureuil, un de mes jeunes hommes, très intelligent et fin comme une anguille, vint me dire « Chef, la bande du boucher, c'est ainsi que nous nommions les 4 bandits. » La bande du boucher doit travailler du côté de Mary Lee Bone ce soir. J'ai entendu le boucher donner des instructions à ses hommes dans un bar de là-bas. Enfin, pour couper au plus court, le soir, nous étions 6 gaillards dans une lane de Mary Lee Bone et nous guettions une maison isolée où nous pensions qu'il allait se passer quelque chose. Un cambriolage, certes. La maison semblait inhabitée. Vers 11 h, fatigués d'attendre, nous allions nous en aller, vu que rien d'extraordinaire ne se passait dans le quartier, quand un cri affreux, un cri d'épouvante et d'agonie résonna dans la maison qui nous intéressait. Nous bondîmes à la porte et nous frappâmes à tour de bras. Bien entendu, la porte resta fermée, mais pas longtemps. L'écureuil avait tiré de sa poche ses outils et lui fut ouvert en un clin d'œil. Ah, le pauvre écureuil, s'il avait su ce qui allait lui arriver. Il ne se serait pas trop pressé, j'en suis sûr. Nous nous précipitâmes dans le vestibule de la maison et entrâmes dans une pièce à gauche, une salle à manger, où le buffet et les dressoirs, au tiroir éventré vide, disait clairement le passage des bandits. Nous allions en sortir quand un cri partit de l'escalier.
« À moi, au secours !»
C'était la voix de l'écureuil. Il va sans dire que nous grimpâmes au galop les marches, et tout en haut, sur le palier du premier étage, nous vîmes notre camarade luttant contre un grand gaillard qui l'avait ceinturé et qui se débattait comme un loup pris au piège. Nous allions sauter sur le couple quand l'écureuil jeta un grand cri et nous tomba dans les bras en même temps. Le bandit souria sur nous, un grand couteau à la main. D'un vigoureux coup de matraque, je cassai le poignet de l'homme et le couteau tomba, en rebondissant sur les marches. Quant à l'écureuil, le pauvre, une épouvantable blessure lui ouvrait le ventre. Il expira presque aussitôt. Il va sans dire que l'assassin fut ligoté dans les règles et nous pûmes l'examiner. C'était un grand brun, les cheveux bouclés, assez beau garçon, mais en ce moment-là, horrible à voir. Il était littéralement couvert de sang. Ses vêtements gris clair étaient rouges, depuis le menton jusqu'aux pieds. Il était hideux. Ses souliers de cuir jaune semblaient avoir trempé dans des flaques de sang. D'où venait-il, tout ce sang? Nous ne tardâmes pas à le savoir. Au premier étage, après avoir traversé un petit salon, nous pénétrâmes dans une chambre où, dans 2 lits jumeaux, gisaient les cadavres de 2 jeunes filles sauvagement égorgées. Leurs têtes, presque détachées du tronc, pendaient hors des lits et les dernières gouttes de leur sang sortaient de leurs carotides sectionnées. Par terre, le tapis avait fait éponge et une large tache rouge s'élargissait sous les lits.
dans une chambre voisine, au milieu de la pièce, une vieille dame à cheveux blancs, en chemise, s'était effondrée à côté du lit. Elle aussi portait à la gorge l'horrible blessure. Tous les meubles, dans les deux pièces, avaient été forcés et fouillés. Mais chose étrange, on ne trouva rien dans les poches de l'homme arrêté. Donc il avait des complices qui avaient pu fuir. En effet, la fenêtre de la cuisine au rez-de-chaussée, donnant sur une courette, était grande ouverte et un mur qui séparait cette courette et la propriété voisine, une maison en construction, portait des traces fraîches d'escalade. L'assassin que nous avions arrêté faisait bien partie de la bande du boucher. Mes hommes le reconnurent pour celui que ses complices appelaient Ned l'acrobate. Quant aux autres trois bandits, Billy the Butcher, le boucher, Audie, le rambler, le rôdeur, et The Kid, le gosse, un gamin de 16 ou 17 ans, ils disparurent complètement de la circulation. On ne les revit plus aux endroits qu'ils fréquentaient d'habitude. Ils se tenaient dans quelques repères où ils avaient quitté Londres. Ned passa devant la cour. Il plaida coupable, bien entendu. Il leur était difficile de plaider non coupable. Le sang dont il était couvert et le meurtre de l'écureuil étaient les preuves évidentes de sa culpabilité. Par exemple, on ne tira pas un mot de lui ni sur sa personne, ni sur celle de ses complices. Quand on l'interrogeait là-dessus, il levait les épaules et souriait ironiquement. Ah non, il n'était pas bavard, le gredin. Il fut proprement condamné à être pendu par le col jusqu'à ce que mort s'en suive, comme le proclame le président de la cour, coiffé de son bonnet noir. Je fus satisfait de ce verdict. Mon pauvre écureuil serait ainsi vengé. Mais je rageais de ne plus avoir des nouvelles des autres trois bandits. Et nous voici, Master John, arrivés à l'histoire de mon oreille. Enfin, pensais-je, pendant que Paddy avalait une large gorge de stout, il reprit. On devait prendre Ned le mercredi 16 juin, à moins que Sa Majesté, notre gracieuse reine, ne lui fît grâce de la vie, ce qui était impossible, vu le noir gredin dont il s'agissait. Le samedi qui précéda ce jour-là, vers 8 heures du soir, j'étais de service dans Kennington Road. Les pubs, les cabarets, regorgeaient de buveurs. Il faisait chaud et c'était jour de paye. J'avais disséminé mes jeunes hommes à gauche et à droite, en quête de quelques bonnes prises, et je me baladais seul, ma grosse canne sous le bras, les mains dans les poches, du côté de Upper Kennington Lane, quand, dans un recoin sombre, à 10 pas de moi, le bruit d'une dispute attira mon attention. Ce que je vis n'était pas un spectacle nouveau pour moi dans ces parages. Une grande brute assommait une femme. Je m'élançai vers le couple en brandissant ma matraque, mais à ma vue l'homme décampa en vitesse, pendant que la femme tombait évanouie sur le trottoir. Je la relevai et je la transportai dans un public house tout proche, en entrant, bien entendu, par la private entrance du bar. Là, assise sur une banquette, la femme reprit vite ses esprits. C'était une jeune femme paraissant avoir 20 ou 22 ans, très blonde, très jolie, proprement habillée de noir, et dont je remarquai les mains admirablement soignées. « Oh, le bandit !» s'exclama-t-elle en pleurant. « Conduisez-moi dans un poste de police, je veux le dénoncer. » Je la regardai. Elle paraissait bouleversée. De grosses larmes coulaient sur ses joues. « Remettez-vous, miss. Buvez ceci d'abord. » Fis-je en lui présentant un gin chaud que j'avais fait apporter. Elle repoussa le verre. « Je ne bois pas d'alcool. Donnez-moi un peu d'eau. » Et lorsqu'elle fut désaltérée, « Menez-moi au poste de police, » répéta-t-elle. Je regardai autour de moi. Il n'y avait presque personne dans la petite salle privée du bar, et nous étions dans un coin, près de la porte. Je me penchai vers la fille et je lui dis à voix basse, « Si vous avez quelque chose à dire à la police, vous pouvez me le dire à moi. Je suis l'inspecteur Mac Higgins de la 3e brigade. » Elle leva les yeux sur moi et je remarquai qu'ils étaient verts. Non pas de ce vert lavé qui paraît gris et qui n'est pas rare dans certains yeux des blondes, non. Ils étaient d'un vert lumineux, d'aigle marine, et ils lançaient de tels éclairs en ce moment qu'ils me donnaient le frisson. « Ah, vous êtes détective ? » murmura-t-elle. Puis, après un moment de silence, « L'homme qui m'a frappé est un bandit. » Qui est-il ? Audie, the Rambler, déclara-t-elle à voix basse. Je fis un bond. Audie, un de mes trois bandits. Où l'avez-vous connu ? C'est l'oncle de l'homme que j'aime. Le Kid, fis-je malgré moi. Elle eut un étrange sourire. Oui, le Kid. Mais c'est un enfant, m'écriai-je surpris. Il paraît très jeune, mais il est âgé de 23 ans. Et vous ? J'ai 20 ans. Quel est votre nom ?
Marie.
Marie quoi ?
Marie, c'est tout.
« Je ne veux pas dire mon nom de famille.
Pourquoi ?
J'ai quitté mes parents, il y a 8 jours. Ils me font rechercher.
Je comprends.
Pourquoi avez-vous quitté vos parents ?
Elle baissa la tête et murmura. « J'aime Dick.
Dick, le Kid.
Qu'est-ce que vous faites? Travaillez-vous?
Je suis shop girl, fille de magasin.
Et vous êtes affilié à cette bande de voleurs, d'assassins?
Non. J'ai voulu retirer Dick de leurs mains. C'est pour cela qu'ils m'en veulent.
Et elle m'a raconté une histoire que j'ai crue. On l'a forcé à faire le guet pendant que le trio opérait. Et elle refusait. De là, les coups.
Comment pourrais-je m'emparer de ces bandits?
Ce sera facile si vous faites ce que je vais vous dire de faire.
Bon, donnez-moi leur adresse.
Elle secoua la tête.
Ça, n'y comptez pas. Je ne veux pas qu'on arrête le kid.
Je réfléchis un instant.
Certes, je pouvais arrêter la femme et on aurait su l'adresse des autres. Mais je voyais déjà, à la boîte, l'affaire confiée à un des grands chefs qui en retirait tout honneur et profit. Et puis, la femme parlerait-elle, sachant l'homme qu'elle aimait en danger? Déjà, elle paraissait se repentir d'avoir commencé à dévoiler ses secrets. Je décidai donc d'agir seul, c'est-à-dire avec les agents que j'avais sous mes ordres.
Alors, vous voulez bien qu'on arrête Audie et Billy?
Oh oui,
fit-elle avec un éclair de haine dans ses yeux verts.
Et qu'on laisse le kit tranquille?
C'est à cette condition seule que je vous livrerai les autres.
Bon, comment les arrêterai-je?
Elle m'expliqua que cette nuit même, vers 1 heure du matin, il devait cambrioler une maison dans Rockne Street, Holyhead Road, une maison dont le maître était en voyage, en Italie ou en Suisse. Je n'avais qu'à être sur place à l'heure convenue et je ramasserai les deux bandits.
« Et Dick ?» demandai-je.
« Dick ne sera pas là, mais j'y serai moi. »
Je la regardai, surpris.
« Oui, je ferai le guet. J'obéirai à leurs ordres, car il faut que je leur donne confiance. »
« Soyez là-bas à 1 heure, et vous n'y serez pas venu pour rien. »
2 minutes après, elle me quitta sans ajouter un mot. Bref, à 1 heure moins quelques minutes, j'étais au coin de Holyhead Road et Hockney Street. J'avais disséminé mes hommes tout près dans les rues voisines, et ils devaient accourir à mon premier coup de sifflet. La jeune fille fut exacte au rendez-vous. Elle me prit par la main en me disant « Venez, ne faites pas de bruit !» Elle m'entraîna jusqu'à un coin d'ombre et me montra une maison, une espèce de villa dans Hockney Street. « Regardez !»
2 hommes, après avoir escaladé la grille, montaient le perron. L'un d'eux s'approcha de la porte et parut la crocheter. C'était le bon moment. J'approchai le sifflet de mes lèvres et je m'apprêtais à donner le signal, quand...
Écoutez-moi, Master John. À ce moment juste, j'ai cru qu'une cheminée me tombait sur la tête. En même temps, une douleur violente me lancina la mâchoire et tombant à la renverse, je partis pour le pays des songes. Je me réveillai, la tête bourdonnante et douloureuse, et un œdème de la grosseur d'un œuf de poule au milieu du crâne. Je parvins assez vite à reprendre mes esprits. Je compris tout de suite que j'étais tombé dans un guet-apens et qu'un coup de matraque m'avait assommé en même temps qu'un direct à la pointe du menton me mettait knock-out. J'étais dans un endroit que je ne pus voir, car les ténèbres les plus épaisses m'environnaient. Je fus d'abord très surpris de me sentir libre de mes mouvements. Aucune corde ne liait mes membres. Je me rendis compte que j'étais couché sur un matelas, un coussin sous la tête et une couverture sur les jambes. Je m'assis et je m'aperçus que le matelas était placé sur un petit lit de sangle. Peu à peu, je m'habituai à l'obscurité et je vis en face de moi une lueur blafarde qui semblait descendre d'un trou percé haut dans le mur. Il fit bientôt assez clair pour que je puisse voir où j'étais. C'était une cave, un caveau plutôt, d'environ 4 mètres carrés et dont le plafond n'était pas à 2 mètres du sol, un vrai tombeau. J'en fis le tour et à la droite du lit, je découvris une porte que je secouais et qui ne bougeait même pas. Elle devait être solidement verrouillée de l'autre côté. Je courus vers cette faible lumière, qui semblait tomber du plafond, et je trouvai une niche, une espèce de cheminée creusée dans le mur, dont le tuyau aboutissait à un soupirail grillé, qui devait donner sur un jardin, car quelques feuilles vertes se balançaient au-dessus de sa grille. De mon caveau à la grille, un espace de 3 mètres environ. Où étais-je? Quelle heure était-il? Au moment où je me demandais cela, le carillon de Westminster sonna 5 heures. Le son des cloches était très net. J'en conclus que la tour ne devait pas être trop éloignée. 5 heures, oui, pensais-je, mais 5 heures du matin ou du soir? Par un geste instinctif, je tâtai la poche de mon gilet et je fus tout surpris d'y trouver ma montre. Je me fouillai, je retrouvai dans la poche de mon pantalon mon porte-monnaie avec les 3 livres, 8 shillings et 6 pence qu'il devait contenir. Par contre, mon revolver et mon canif avaient disparu. Je m'approchai du soupirail et je constatai que ma montre marquait bien 5 heures. Mais comme nous étions au mois de juin, et qu'à 5 heures il fait jour le matin et le soir à cette heure-là, j'étais toujours dans l'impossibilité de dire si j'étais resté évanoui 4 ou 16 heures. J'écoutais, pas un bruit de voiture, ni de pas, ni de voix. J'en conclus qu'il devait être 5 heures du matin, du dimanche matin. Ce silence me l'indiquait. Je restai un moment immobile, puis j'allai vers la porte. Un bruit de voix s'approchait. Je sautai vite sur mon matelas et m'allongeai en tirant la couverture sur moi. Presque aussitôt, une ampoule électrique s'alluma au milieu du plafond et la porte s'ouvrit, donnant passage à Audie the Rambler, suivi du Kid, que je voyais de près pour la première fois. C'était un jeune homme fluet, serré dans un costume bleu sombre, coiffé d'une grande casquette de jockey, dont la large visière lui descendait sur le front. Chose curieuse, des lunettes noires lui cachaient les yeux et l'avaient relevé le col de son veston. Audie se planta devant moi et ricana. « Eh bien, on a bien dormi, Mr. McHiggins ?» Je me dressai sur ma couche et je le regardai fixement. « Où suis-je? Que voulez-vous de moi ?» Je demandai cela d'un ton bref et calme. Audie allait répondre quand le Kid ordonna d'une voix sèche « Allez-vous-en !» Sans un mot, Audie s'éloigna, laissant la porte entrouverte. Je crus que j'avais ma chance. Je me levai d'un bond, mais je me rassis aussitôt. Un coup de poing dans la poitrine et le canon d'un revolver à 2 pouces de mes yeux m'y décidèrent. Alors le Kid dit d'une voix blanche « Il faut rester tranquille, Mr. McHiggins, et tâcher de maîtriser vos nerfs. Très dangereux, les nerfs, dans votre situation. » Je repris ma respiration et je demandai « Enfin, qu'êtes-vous? De quel droit me séquestrez-vous » « Du droit que je me donne, » répondit le Kid, « et vous allez savoir qui je suis. » Et le voilà qui baisse le col de son veston, ôte ses lunettes et enlève sa casquette. « Je crois, Master John, que vous êtes fixé déjà. » Et que vous vous doutez bien quelle était la personne qui était devant moi. Je fis un geste d'ignorance. Quoi? Non? Mais, my dear boy, c'était Mary, la shop girl amoureuse de Kid. Et Paddy éclata de rire. Amoureuse d'elle-même, en ce cas, n'est-ce pas drôle? Et je fus vite au courant de ce qu'elle voulait. Elle voulait sauver Ned, l'acrobate, qui était l'homme qu'elle aimait, tout simplement. Vous voyez cela d'ici? Arracher un assassin au bourreau de la reine, condamné régulièrement et justement par la cour, rien que ça. Malgré la terrible situation dans laquelle je me trouvais, je me mis à rire. Le Kid, ou plutôt Mary, me dit de sa voix calme « Vous avez tort de rire, Patrick McHiggins, c'est très sérieux. Mais vous croyez que j'ai le pouvoir d'arrêter la justice, vous êtes folle. » Non, elle n'était pas folle. Voici ce qu'elle avait imaginé. Elle allait écrire au chef de la police, au président de la cour et à la reine, oui, à la reine, que si Ned l'acrobate était pendu mercredi, le même jour, le nommé Patrick McHiggins, loyal serviteur de sa gracieuse majesté, serait envoyé le rejoindre après avoir été proprement torturé. Je vous avoue, Master John, que je commence à avoir peur. Vous pensez bien que la police, la justice et sa majesté n'allaient pas s'occuper de l'infime individu que j'étais. J'expliquai cela à la femme. Elle devint blanche comme un linge et ses yeux jetèrent des flammes vertes. « En ce cas, » gronda sa voix, « tant pis pour vous. Si Ned est pendu à 10 heures, à 11 heures, vous ne serez plus de ce monde. » Il s'achemina vers la porte. « Vous n'allez tout de même pas me faire jeûner ?» fis-je en riant jaune. « Non, ne craignez rien, vous aurez de quoi manger tout à l'heure. » Il sortit en tirant la porte, que j'entendis verrouiller soigneusement. Je pensais qu'on allait me replonger dans l'obscurité, mais l'ampoule restait allumée. Après un examen minutieux de ma prison, je me rendis compte que la fuite était absolument impossible. J'étais bel et bien perdu. Combien durèrent mes tristes réflexions, je ne pourrais le dire. Longtemps, je pense, car la faim me torturait, et la soif surtout. Enfin, la porte se rouvrit, et Audie the Rambler et Billy the Butcher parurent. Billy portait une petite table. Audie un grand panier qu'il déposa sur le sol avec un pot d'étain. En silence, ils placèrent la table près du lit, et sortirent du panier des plats couverts qu'ils mirent sur la table, puis un verre, une fourchette en corne, une serviette et une petite salière. « Voilà, Mr. McHiggins, » fit Audie avec un salut ironique. « Vous avez là de quoi faire 2 bons repas. Demain, vous en aurez autant. Bon appétit !» Et les 2 complices sortirent en verrouillant, bien entendu, la porte. Je découvris les plats, et je fus tout surpris en constatant qu'ils contenaient l'un, un beau poulet rôti, découpé dans les règles, et l'autre, un assortiment appétissant de viande froide, jambon d'York et roast beef. Je cherchais dans le panier et j'en tirai un loaf de Neville's Bread, un de ces bons pains de Neville, délicieux et si propre, que les Londoniens adorent. Je trouvai aussi dans le panier un flacon de Piccalilli. Vous savez bien, ces légumes au vinaigre et à la moutarde qui emportent la bouche. Et tout au fond, un livre, une bonne traduction des 3 mousquetaires. Ma terrible situation ne m'ôta pas la pitié et je fis honneur au repas. Tant d'excellents Gwyn Stout, juste celui que j'aime. Le broc en contenait bien 5 pintes. Après le repas, je m'allongeai sur mon lit. Je lus quelques pages des Mousquetaires. Mais malgré l'intérêt du roman, je finis par m'endormir. Lorsque je me réveillais, l'ampoule était toujours allumée. Ma montre marquait 4 heures. Je bus un bon gobelet de stout et j'allais me rallonger sur mon matelas quand Kid, ou plutôt Mary, entra. Elle était très coquettement habillée d'un costume tailleur élégant et coiffée d'un joli chapeau qui lui allait admirablement. Elle était mieux que jolie, je vous l'assure. Elle se dégonta, releva sa voilette et de sa voix calme me dit « Patrick McHiggins, vous allez écrire un mot à votre chef, lui disant que vous êtes en danger de mort et que seule la grâce de la vie de Ned peut vous sauver. Je mettrai votre missive dans la lettre que je vais lui envoyer moi-même. » Elle tira de son sac une feuille de papier et un stylo. Je compris que refuser aurait été une folie et je fis ce qu'elle me demandait. Oh, peu de mots, à peu près ceci. Chef, je suis tombé dans une trappe. Tout en étant en très bonne santé, je suis à l'agonie. Si Ned est exécuté mercredi prochain à 10 heures, à 11 heures je serai mort. Au secours. Et je signais. C'est parfait, dit-elle. Bonne nuit, Patrick McHiggins. Et elle s'en alla. Resté seul, je passai une nouvelle inspection de ma cellule. Hélas, j'étais bel et bien muré dans une cave au mur épais, et n'ayant pour toute issue qu'une porte solidement verrouillée et un soupirail de 20 centimètres de diamètre. Le plafond, que je pouvais toucher aisément de mes mains, était voûté et lisse. Par terre, dans le coin à droite du soupirail, se trouvait un tas de tessons de bouteilles où dominaient les débris des bouteilles de champagne. À gauche, il y avait un tas de cendres, les autres coins étaient vides. Je me mis dans la niche du soupirail et j'écoutais les bruits du dehors. Tout était calme. C'était dimanche, et vous savez que la ville se repose ce jour-là. Les heures passaient, lentes. Je regardais avec envie les feuilles qui se balançaient au-dessus de la grille du soupirail. J'aurais voulu être à leur place. Enfin, laissons faire la providence, soupirai-je, et je m'allongeai sur ma couche, décidé à me remettre à la destinée. À 7 heures, la faim me mit debout, et je fis honneur au restant de poulet et de la viande froide. À 8 heures, l'ampoule électrique s'éteignit. J'entendis le bruit d'une porte qui se fermait au loin. Probablement mes 3 geôliers s'en allaient. Je me couchais, absolument convaincu que j'étais irrémédiablement perdu. Ici, le vieux McHiggins lampa une gorgée de stout et se mit à rire. Vous devez penser, Master John, que mon histoire n'est pas très intéressante, car vous savez bien que je ne fus pas tué puisque je suis là, en train de bavarder. Je vous assure, protestai-je, que votre aventure m'intéresse infiniment. All right, alors je continue. Mes pensées n'étaient pas roses. Vous devez vous l'imaginer. Et j'appelais le sommeil avec peu d'espoir qu'il vint. Tout à coup, une chose arriva, qui me mit debout tout frémissant. Dans le coin de ma prison, qui se trouvait à droite du soupirail, je vis cette chose qui me fit douter de mes sens. C'était une lumière, et cette lumière bougeait. C'est-à-dire que par petits bonds, elle montait du sol vers le plafond. Or, ce n'était pas grand, un petit point brillant avec un halo de 5 centimètres de diamètre environ, mais vif, éclatant comme une lumière électrique. Qu'était-ce donc? Un feu follet? Un rayon venant d'un trou dans le mur, mystère. Vous devez bien penser que, vivement, j'allais me rendre compte. Lorsque je fus à environ 1 mètre du point lumineux, je voulus faire encore un pas, et je heurtai le tas de tessons de bouteilles qui se trouvaient à mes pieds. Au bruit, la lumière disparut, comme si l'on avait soufflé dessus. Je restai longtemps immobile, retenant ma respiration, et après quelques minutes d'attente, la lumière reparut. Mais moi, je frissonnais d'horreur. Je vais vous dire pourquoi. J'avais, dès ma plus tendre enfance, un dégoût, une épouvante stupide, mais invincible, des araignées. Si j'en trouvais une sur ma route, je l'écrasais sans pitié, et rien ne m'aurait fait coucher dans une chambre où je voyais une toile d'araignée. Or, le point lumineux qui luisait devant moi était une araignée, une grosse araignée à courtes pattes, entièrement blanche, et c'était elle qui répandait cette lumière comme un empire. J'admirais sincèrement la jolie bête, un vrai bijou, qui semblait sculptée dans l'ivoire par un maître orfèvre japonais. Elle remuait ses 8 pattes polies et luisantes. Le foyer de sa lumière était son ventre, gros comme un noyau de cerise, transparent comme verre, où on voyait onduler des flammes comme on en voit dans un flacon de phosphore si on le regarde dans les ténèbres. Elle monta vivement vers le plafond, s'arrêta un instant, puis disparut, et je vis qu'elle était entrée dans un assez large trou percé à ma droite, tout près du coin, et la lumière disparut. Pendant les quelques secondes qu'elle éclaira ce coin, je vis un gros tuyau de plomb qui sortant du mur extérieur à ma gauche, se coudait à angle droit et entrait dans le trou percé dans le mur à droite. J'avais envie d'y fouiller, mais, labourais-je, la pensée de sentir sous mes doigts le corps grouillant de l'araignée me fit frissonner de dégoût. J'attendis un long moment et la lumière reparut. La petite bête redescendit, passant devant mes yeux. Elle tenait entre ses pattes une espèce de cocon soyeux au milieu duquel je reconnus une grosse mouche verte. Elle avait du temps dans sa toile de l'autre côté du trou. Enfin, elle disparut dans les tessons de bouteille avec sa proie. Je hasardai une main dans le trou et je m'aperçus que mon bras pouvait s'y mouvoir à l'aise. Sous mes doigts, je sentais le tuyau froid, que j'avais vu à la lumière de l'araignée. Il était gros comme un poignet de femme. Que contenait-il? De l'eau ou du gaz? Et où allait-il? Autant de mystères. Je me remis sur ma couche et je réfléchis profondément. Puis, fatigué, je finis par m'endormir. Je fus réveillé le lendemain matin par la porte qu'on ouvrait. L'ampoule était allumée. Ce fut Billy the Butcher qui entra. Il ramassa le panier avec les assiettes vides et laissa le reste, c'est-à-dire qu'il emporta aussi la cruche à bière que j'avais vidée. Je regardai l'heure à ma montre, il était 7 heures. Bill revint bientôt, m'apportant à peu près les mêmes victuailles que la veille, un nouveau pain de Neville et la même mesure de bière. Une cruche d'eau propre, une cuvette, du savon et une serviette me firent plaisir, car j'ai toujours aimé la propreté. Cette journée du lundi fut très longue, car je n'eus aucune visite. La vie dehors avait repris. J'entendais le sifflet lointain des locomotives et les sirènes des bateaux de la Tamise. Je passais mon temps à réfléchir. Ce tuyau, dans le coin de ma cellule, m'intriguait. Était-il un tuyau de dégagement, emportant les eaux sales de la maison à l'égout? Il me semblait bien mince pour ce service. J'étais resté un long moment, l'oreille aux aguets dans le coin où il passait, et je n'avais pas entendu le bruit caractéristique, le sifflement que l'eau produit dans les tuyaux qui la véhiculent. Je n'avais rien entendu. Décidément, cela devait être un tuyau à gaz. Le soir, après avoir dîné, je me couchais, la tête fatiguée par la tension de mon esprit. Et malgré la terrible situation dans laquelle je me trouvais, je m'endormis vite d'un sommeil de plomb. Je fus réveillé par un vacarme extraordinaire. C'était des cris, des éclats de rire et le bruit d'un piano sur lequel on aurait dit qu'on tapait à coups de poing. L'ampoule électrique s'alluma et la porte s'ouvrit. En trombe entra la femme suivie de Billy et Dodie. Je les reconnus à peine. Billy portait une livrée de footman, de valet de pied. Odie était habillée en chauffeur de grande maison avec casquette galonnée et boutons de cuivre. Quant à Mary, je manquais de tomber à la renverse, tant je fus surpris à sa vue. Elle était habillée d'une toilette de soirée d'une richesse extraordinaire. Elle portait des bijoux de toute beauté, des bracelets magnifiques lui encerclaient les poignets et des bagues à tous les doigts. Un diadème de brillants jetait des feux dans ses beaux cheveux blonds et un collier de perles, dont les grains étaient presque aussi gros que des noisettes, descendait jusqu'à sa taille. Elle entra en chancelant et riant à gorge déployée, je m'aperçus qu'elle était abominablement ivre. Elle s'assit sur mon lit et partit en me regardant d'un interminable éclat de rire, puis elle s'adressa brutalement à Billy. « Go and get some champ. »« Allez chercher du champagne, » commanda-t-elle. Billy sortit de suite, sans un mot. Odie regardait la scène en riant stupidement. Elle lui lança un mauvais coup d'œil et lui cria. « Pourquoi riez-vous, brute ?» Aussitôt sérieux, Odie murmura une excuse. « Allez-vous-en, » cria Mary. « Sortez. » Odie la regarda, indécis, puis me regarda. Mais elle lui monta la porte d'une façon si hautaine que, s'inclinant, soumis, il sortit, laissant lui à moitié ouvert. Je m'aperçus qu'il était resté sur les marches de l'escalier, aux écoutes. Enfin, elle m'adressa la parole. « Eh bien, ça va, Mr. McHiggins? Content de votre nourriture? Le lit est bon? » Et elle riait en me demandant cela, la bouche tordue dans un rictus ignoble. Je répondis en m'inclinant. « Savez-vous que nous sommes mardi ? » continua-t-elle. « Eh oui !» Il est près de 4 heures du matin et c'est demain matin, à 10 heures, que votre sort sera décidé. Si Ned échappe à la corde, vous vivrez. Si on le pend, vous mourrez. C'est vous qui l'avez arrêté et c'est vous qui payerez. Je ne puis vous décrire comment était sa figure à ce moment-là. Elle était horrible. Des tics tiraient ses traits. Sa bouche grimaçait et ses yeux verts lançaient des éclairs. Vous mourrez de ma main, Mr. McHiggins. Je vous martyriserai. Je vous arracherai le cœur tout vivant. Elle se tordit dans une sorte de spasme et cria « Ah, votre cœur tout sanglant! Quelle joie de le sentir palpiter entre mes doigts !» Alors je compris et je frissonnais. Cette femme était folle, folle alliée, et je me trouvais au pouvoir de cette démente. Elle revint avec un plateau sur lequel se trouvait une bouteille de champagne et 2 coupes. Sur un signe de la femme, il déboucha la fiole, se servant d'un outil approprié, une espèce de pince pointue qu'il posa ensuite sur le plateau. La femme, d'une main malhabile, remplit les coupes et m'entendit une, puis leva la sienne en criant « À la santé de Ned, et par conséquent à la vôtre !» Et elle vida la coupe d'un coup. Puis elle la remplit et la vida encore. Puis elle recommença. Je la regardais, abasourdie. Elle loquetait et présentait tous les signes de la plus crapuleuse ivrognerie. Je vidai mon verre et elle le remplit aussitôt, puis elle vida la bouteille dans le sien. Quand nous eûmes bu, elle se leva. « Je vais vous laisser dormir, » dit-elle. « J'en reviendrai mercredi à 11 heures. Votre sort sera décidé. » Et avant que je puisse m'en défendre, elle me sauta au cou et m'embrassa. Je vous dis qu'elle était folle, mais pendant qu'elle me tenait serrée, je jetai un cri terrible. Une douleur atroce me lancina l'oreille gauche et la femme me lâcha en éclatant de rire. Elle avait les lèvres en rouge de sang et cracha quelque chose sur le sol. C'était un morceau de mon oreille. Ce qui manque là, et Paddy me montra son oreille mutilée. Alors je perdis la tête et voulus sauter sur elle pour l'étrangler. Mais Billy me ceintura et me jeta sur le lit, prêt à m'assommer sur un ordre de cette furie. Elle continuait de rire dans une espèce de crise de délirium très mince. Enfin, elle se calma un peu et ordonna à Billy en lui montrant le plateau et les verres. « Enlevez ça et allez-vous-en. » Et comme l'homme hésitait, elle ajouta « N'entendez-vous pas, brute ?» Billy prit le plateau sans se presser. La femme hurla « Allez-vous vous dépêcher ?» Et Billy répondit « Yes, milady. » Alors arriva ceci. Il avait à peine fini de prononcer ce dernier mot qu'il recevait de la femme un terrible direct à la mâchoire qui le fit tomber à la renverse. Le plateau sauta et dégringola sur le sol avec un grand bruit de verre brisé. La femme ressemblait à une furie. Elle écumait et criait « Je vais vous apprendre à tenir votre langue, stupide gredin !» Puis passant près du corps étalé, elle lui décocha un coup de pied dans la figure et sortit en chancelant. Billy se releva, tenant sa mâchoire, ramassa le plateau et de quelques coups de pied, jeta les tessons de coupe et de la bouteille dans le coin, puis s'en alla en bouclant la porte. J'étais resté immobile. Ce titre de Milady que lui avait donné Billy me surprenait. Qui était donc cette folle? Vous savez que chez nous, on avait une Milady, la femme d'un chevalier, sir, d'un baronnet, d'un baron ou d'un vicomte, ou la fille d'un comte, earl, d'un marquis ou d'un duc. Cette ivrognesse appartenait-elle donc à la noblesse? Je réfléchis, oubliant presque mon oreille mutilée qui saignait beaucoup. Je mouillai ma serviette et je l'appliquai en tampon sur la blessure, ce qui me soulagea un peu. En allant à la cruche, j'avais trouvé parmi les débris des coupes et de la bouteille la pince à champagne qui avait sauté près du tas de cendres. Instinctivement, je l'y enterrai au pis-aller. Cela faisait toujours une arme. Vers 10 heures, Oni m'apporta silencieusement ma nourriture, à peu près la même que les autres jours. Il me restait presque tout le pain de la veille. Il ne remporta pas le nouveau Neville frais qu'il déposa sur la table. J'avais donc assez de pain pour me suffire pendant 3 jours, et nous étions mardi. Et le lendemain, mon sort serait décidé. J'avoue que je me croyais perdu. Je bus à la file 3 grands gobelets de stout. J'avais la fièvre. Ma blessure et l'angoisse me faisaient presque délirer. Je m'attendais à tout de cette maniaque du crime, ivrognesse complètement démente et capable de tout. Je mangeais très peu et m'allongeais sur ma couchette en proie au désespoir. Je regardais fixement le coin où l'araignée blanche s'était montrée la veille, et tout à coup, comme un éclair, une idée m'illumina. Je sautai du lit et je pris le pain qui me restait, plus la moitié du pain du jour. Je fis un trou dans le tas de cendres et je l'y enterrai. Et après l'avoir arrosé d'eau et de bière, je le recouvris. Vous vous demandez, Master John, si je n'étais pas devenu fou. Non, et vous allez voir par la suite que j'avais toute ma raison. Je passai tout le restant de la journée dans l'angoisse la plus affreuse. La décision que j'avais prise était tellement folle que je tremblais rien que d'y penser. J'allais près de la porte et j'écoutais tous les bruits de la maison. Parfois, j'entendis des éclats de voix, comme des disputes. À 8 heures, ma lumière s'éteignit et peu après, le bruit de la porte cochère qu'on fermait me fit comprendre que mes geôliers s'en allaient, comme d'ordinaire, pour ne rentrer qu'au milieu de la nuit. Aussitôt, je courus au coin où j'avais enterré le pain et à genoux, dans les ténèbres. Je me mis à pétrir ce pain rendu molle et gluant, le mêlant à de la cendre, d'où à tâtons j'éliminais les bouts de charbon et les scories. Après 1 heure de dur travail, j'avais à ma disposition une boule d'une espèce de mastic de la consistance de la pâte à pain et aussi grosse que ma tête. J'étais couvert de sueur. Je me reposais environ 1 heure, puis je déchirais plusieurs pages du livre que je bouchonnais et enfermais dans ma serviette. À ce moment, l'araignée lumineuse parut dans son coin. Elle exécuta le même manège des autres nuits. J'attendis, et lorsqu'elle fut redescendue dans son repaire, je mis dans le coin, par terre, la boule de mastic et la serviette pleine de papier froissé. Je pris alors la pince à champagne. Ayant retroussé la manche droite de ma chemise, je fourrai mon bras dans le trou du mur où passait la canalisation. À ce moment, 10 heures sonnèrent à Westminster. Alors, avec une espèce de fureur, j'attaquai le tuyau au coup de pince, tournant et retournant l'outil dans le trou que je creusais, le plus loin que je pouvais, de l'autre côté du mur. Sous la morsure de l'acier, le plomb s'effritait en copeaux qui coulaient sous mes doigts. Bientôt un sifflement se fit entendre et l'odeur du gaz d'éclairage empoisonna l'air. Je tâtai le trou. Il était du diamètre d'un de mes doigts. Vivement, je pris la serviette et j'en fis un tampon que je mis dans le trou du mur, prenant garde de ne pas fermer la sortie du gaz. Enfin, avec le mastic que j'avais pétri, je m'évertuai à boucher le trou dans le mur, de mon côté, par-dessus le tampon de papier. Toute l'issue fut mastiquée soigneusement. Le gaz, trouvant une issue de l'autre côté, ne faisait aucun effort pour venir du mien. J'essuyai la sueur qui me coulait du front, et j'étais fatigué. Mais au lieu de m'étendre sur mon lit, je pris le coussin et j'allai m'asseoir dans la niche qui était sous le soupirail. Cela vous surprend, n'est-ce pas? Vous verrez tout à l'heure que j'avais mes raisons de changer de place. J'entendis sonner minuit, puis 1 heure, puis 2, puis je perdis la notion du temps. L'angoisse même de la situation désespérée où je me trouvais m'assomma et je m'endormis d'un sommeil de cauchemar. Un fracas épouvantable me réveilla et me mit debout. La porte de ma cellule, dégondée, s'abattit sur le sol, une partie de la voûte s'effondra et écrasa mon lit. Alors, brandissant ma pince, je sortis par la brèche de la porte en courant. Je montai un escalier de pierre et je me trouvai dans une cuisine dont tout le côté droit était miné. Je montai d'autres marches et je mis pied dans un vestibule où tout brûlait comme dans un four. Devant la porte, défoncée sur le seuil, je vis un corps étendu. Je reconnus le kid, ou plutôt Milady, habillée en homme. Elle gisait renversée, les bras en croix, la tête sous une grosse pierre tombée de la voûte, qui lui avait broyé le crâne comme une noisette sous un coup de marteau. Je sortis en courant et traversai un jardinet qui donnait sur une agence bordée de villas. Où étais-je? Je ne me le demandais pas. Je ne pensais qu'à fuir. Au coin d'une avenue, je m'arrêtai et regardai en arrière. Les maisons maudites flambaient comme un brûlot. Je repris ma course et je tombai dans les bras de 3 hommes qui venaient en courant au-devant de moi. Je reconnus dans l'un d'eux M. Warren, un de mes chefs, et je m'évanouis comme une femmelette. Je me réveillai dans le lit du Christ Hospital. M. Warren était à côté de moi et aussi le grand chef de la police, auquel je racontai toute mon aventure, moins la cause de l'explosion et de ce qui concernait le mystère de Milady. Bien entendu, on pendit Ned l'acrobate, ce matin-là, à 10 heures, dans une des cours de la prison de Newgate, comme il avait été décidé, et ce fut justice. Lorsqu'on fouilla les ruines de la maison brûlée, on y retrouva 3 cadavres carbonisés. La femme et les 2 bandits avaient aussi payé leur dette à la société. « Et vous n'avez jamais su qui était cette femme ?» Paddy me regarda fixement, puis secoua la tête avec un petit sourire. « Non, je ne me suis plus occupé de l'affaire, répondit-il. Mais je vis qu'il ne me disait pas la vérité. » Il but le fond de son pot de stout et ajouta. « Il faut que je vous dise aussi, Master John, que depuis ce jour-là, je n'ai plus tué une seule araignée. » Ainsi s'achève L'araignée blanche par Jean Sartène.